VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Élection en RDC. Le candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu, accuse le gouvernement de chercher à entraver les déplacements de son agent de campagne, notamment en lui refusant l'autorisation d'atterrir. Selon son équipe, la demande qu'il a formulée en bonne et due forme en ce sens auprès de l'aviation civile congolaise a été arbitrairement bloquée. D'où un démenti du vice-premier ministre en charge des transports. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je n'ai sur ma table aucune demande du candidat Martin Fayulu sollicitant l'atterrissage de son avion. Un appareil qui remplit les normes selon la loi congolaise ne peut pas être refusé d'atterrir sur le sol congolais, a affirmé à Top Congo FM le ministre des Transports José Makila Soumanda. Cette réaction fait suite aux allégations de la coalition Lamuka qui porte la candidature à la présidentielle de Martin Fayulu. Olivier Kamitatou, l'un des directeurs de campagne adjoint du candidat commun de l'opposition et proche de Moïse Katumbi, a en effet affirmé sur Twitter, je cite, « En dépit d'une demande régulière adressée en bonne et due forme, l'avion de Lamuka est arbitrairement bloqué pour empêcher à Martin Fayulu d'aller parler aux Congolais. » Fin de citation. Le ministre congolais des Transports a rappelé à Lamuka qu'en cas de pareille demande, il faut tout d'abord que les techniciens de l'autorisation de l'aviation civile se rendent dans le pays d'origine de l'appareil pour faire l'inspection de l'avion et s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil. Cette polémique suscite de nombreux commentaires alors que le candidat Martin Fayulu, qui présente ce vendredi à Kinshasa, le programme commun de la coalition Lamuka annonce que la première phase de sa campagne va débuter le dimanche 2 décembre courant par un déplacement à Beni et à Butembo, deux villes du Nord Kivu à l'est de la RDC. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville voisin, reprise ce vendredi des activités à l'université malienne Gwabi, fermée depuis 3 mois. Le personnel qui réclamait essentiellement le paiement de 6 mois de salaire va se contenter du versement de 1 mois, en attendant de poursuivre les négociations avec le gouvernement. Le point avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
C'est au terme d'une assemblée générale qui a duré toute l'après-midi de jeudi que la décision de reprendre les activités à l'université Marie Ngouabi a été prise. Plusieurs avis divergents sur la levée ou non de cette grève ont finalement débouché sur la reprise du travail dès aujourd'hui vendredi. Dans une déclaration, les syndicalistes appellent tous les travailleurs de l'université à reprendre les cours à la suite de quelques points satisfaisants obtenus lors des discussions avec le gouvernement.
Paiement immédiat du salaire du mois de juin 2018. Paiement des heures diverses dues au titre de l'année académique 2016-2017. Versement de la subvention de fonctionnement. Poursuite des négociations avec le ministre de tutelle en vue du règlement des mois de salaire impayés et des heures diverses dues. Paiement régulier des salaires au même rythme que les agents de la fonction publique. Demande à l'ensemble des travailleurs de l'université Marie Ngouabi de rester sereins et vigilants, se réserve le droit de déclencher à tout moment une autre grève si la partie gouvernementale ne respecte pas ses engagements. Fait à Brazzaville le 29 novembre 2018, l'Assemblée des syndicalistes.
La levée de la grève a été précédée par d'intenses négociations directes avec le Premier ministre Clément Mouamba. Les syndicalistes avaient exigé que le ministre de l'Enseignement supérieur ne participe pas à cette rencontre, estimant que ce dernier n'avait jamais souhaité dialoguer avec les universitaires en grève. Pour Gabriel Bisanga, responsable syndical à Marie Ngouabi, le tout se joue maintenant au niveau des engagements pris par les autorités.
On souligne un point important. On se réserve le droit de déclencher une grève si la partie gouvernementale ne respectent pas ses engagements. Nous restons attachés au respect des engagements qu'ils ont pris. L'année passée, nous avons suspendu la grève par patriotisme. Maintenant, nous avons eu des engagements de la part du gouvernement. Nous espérons que le gouvernement tiendra parole.
Déclenchée le 6 septembre dernier, cette grève a paralysé toute l'université Marie Ngouabi alors que les nouveaux bacheliers 2018 attendent toujours d'être inscrits. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
La lutte contre les djihadistes dans la région du lac Tchad maintenant. Les présidents du Tchad, du Nigeria et du Niger, ainsi que le premier ministre du Cameroun, ont demandé à l'issue d'une réunion jeudi à N'Djamena le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram. Le point avec Bagassi Koura.
Le président Mohamedou Buhari du Nigeria, Mahamadou Issoufou du Niger, Idriss Déby du Tchad et le premier ministre camerounais Philemon Yang sollicitent le soutien de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilisation de la région du lac Tchad. À l'issue de leur rencontre à huis clos à N'Djamena, les chefs d'État et de gouvernement expriment leur profonde préoccupation face à la recrudescence des attaques et affirment vouloir changer d'approche dans la lutte contre Boko Haram. Ils promettent de multiplier ce type de rencontres et se sont entretenus avec de hauts gradés de la force multinationale mixte qui surveille la région du lac Tchad avec l'aide des comités de vigilance composés de citoyens locaux. Hier, un officier nigérien a déclaré qu'une base militaire proche du lac Tchad a été attaquée mardi par Boko Haram et que les soldats mis en déroute ont perdu 3 hommes. À la mi-novembre, la branche qui fait allégeance au groupe État islamique a revendiqué la mort de 118 soldats au Nigeria. Au Cameroun, au moins 29 personnes ont été blessées mercredi dans un attentat suicide à Amchide, dans l'extrême nord, près de la frontière nigériane.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, une manifestation de l'opposition a été dispersée par les forces de l'ordre à Conakry, la capitale. Plusieurs centaines d'opposants guinéens voulaient manifester une fois encore contre les conditions d'installation des conseillers municipaux. Les détails avec Raïssa Girondin.
Les jeunes manifestants, estimés à quelques centaines par des journalistes, un millier pour les organisateurs, entendaient défiler du grand stade de Conakry au Palais du Peuple, siège de l'Assemblée nationale. Malgré l'absence du chef de l'opposition, Sélou d'Alain Diallo, ils étaient déterminés à braver l'interdiction de manifester. Les forces de l'ordre ont alors usé de gaz lacrymogène et érigé des barricades avec les pick-up de la gendarmerie. 4 manifestants ont été légèrement blessés. Après plusieurs mois de contestation des résultats des élections locales du 4 février, un accord avait été conclu en août entre le pouvoir et l'opposition sur la répartition des exécutifs communaux. Début octobre, l'opposition a repris ses journées ville morte et ses manifestations. Elle accuse le gouvernement de violer cet accord et de corrompre ses élus pour s'assurer le contrôle d'une large majorité des communes du pays.
Afrique du Nord, le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué ce vendredi qu'il réclamait des informations à l'Égypte après l'arrestation d'un Britannique dans la ville portuaire d'Alexandrie, un Britannique accusé d'espionnage. Mohamed Aboul Kassem, un expatrié de 19 ans originaire de Manchester dans le nord de l'Angleterre, a été arrêté le 21 novembre à son arrivée de Libye, pays d'origine de son père, où il a vécu pendant 2 ans, après que les autorités égyptiennes ont découvert dans son téléphone portable une photo d'un avion militaire. Sa famille affirme que la photo a été prise à travers le hublot de son avion alors qu'il atterrissait à l'aéroport d'Alexandrie. Afrique du Sud, la justice sud-africaine a fixé ce vendredi au 20 mai 2019 la prochaine audience préliminaire au procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire de vente d'armes vieilles près de 20 ans. Dans cette affaire, Jacob Zuma est accusé d'avoir touché pour 260 000 euros au cours actuel de pots de vin de la compagnie française Thales lors d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, Jacob Zuma était ministre provincial. Il a été ensuite vice-président du pays. Et pour terminer, ouverture ce vendredi à Buenos Aires du sommet du G20, l'organisation regroupant les 20 pays les plus riches du monde. Une rencontre qui se tient dans un contexte de tensions politiques et commerciales, alors que l'organisation est le symbole même du libéralisme économique. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping vont se rencontrer en marge du sommet de 2 jours dans la capitale argentine. Au menu de leur discussion, les tensions commerciales entre Washington et Pékin, quelques jours après que l'administration américaine a annoncé qu'elle allait mettre à exécution sa menace d'ajouter de nouvelles taxes de 200 milliards de dollars sur des produits chinois. Les deux parties espèrent un dégel dans le conflit commercial qui les oppose depuis plusieurs mois, avec des hausses de tarifs de part et d'autre. Les États-Unis ont aussi imposé des taxes additionnelles sur l'acier et l'aluminium en provenance d'Europe. Cette question devrait donc être abordée, mais le président Trump a déjà dénoncé à plusieurs reprises les pratiques commerciales des autres pays jugées défavorables aux États-Unis. Sur le plan diplomatique, l'Ukraine sera au centre des préoccupations. Le président américain Donald Trump a finalement annulé sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, citant la saisie de navires ukrainiens par la Russie.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.